Bonjour, je suis Céline Kallmann, bienvenue dans le titre à la une. Il est parti et nous, on est toujours là. C'est la une ce jeudi 21 mars du journal La Provence, 24 heures après la visite surprise d'Emmanuel Macron à la Castellane. Le chef de l'État a déclaré une guerre totale au trafic de drogue, l'opération PlaceNet XXL.
C'est donc l'information et l'image surprise de cette matinée, cette visite surprise. Regardez ces images en direct d'Emmanuel Macron à Marseille, le cortège présidentiel qui semble se diriger, vous allez nous le confirmer, Boris Karlamov, vers la cité de la Castellane, alors qu'il y a une gigantesque opération antidrogue qui est en cours à Marseille.
Oui, effectivement, le président de la République vient donc d'arriver dans cette cité de Marseille. Impressionnant.
L'Élysée a tout fait pour garder le déplacement secret jusqu'au dernier moment. Emmanuel Macron est en fait sur place pour communiquer à propos de l'opération PlaceNet à la cité de la Castellane notamment. Plaque tournante du trafic de drogue. L'opération va durer 3 semaines. 4000 policiers et gendarmes mobilisés. Le chef de l'État se fait alors expliquer, sous l'œil des caméras et cartes du périmètre à l'appui, le cours des opérations. Opération menée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Pierre-Édouard Colliex.
Et là, vous êtes à la Castellane, c'est vraiment la cité la plus compliquée que l'on ait. Et donc, on la tient. Dès hier, on a 2 CRS en permanence. Ça nous permet de tenir de 10h à 22h. On a même rajouté hier soir... parce que c'était la première journée, c'était un peu plus sensible, on a rajouté la CRS 81. Et donc on tient le périmètre, c'est les caves. Hier, on avait les équipes cynophiles. Par exemple, je parle sous contrôle de la commissaire, mais en fin de journée, 2 kilos dans une cave grâce à ce travail-là.
La veille de la venue du chef de l'État, donc, des dizaines de policiers ont investi le quartier, miné par le trafic. En début d'année, Emmanuel Macron avait annoncé la multiplication de ses opérations, 10 par semaine, à travers toute la France. Opération mal perçue par les habitants des quartiers nord, comme le raconte pour RMC Romain Poiseau.
Des policiers, des CRS pour faire place nette dans des quartiers gangrénés par le trafic de drogue.
Ça ne change absolument rien, ça ne rassure aucun habitant.
Du déjà vu, qui ne perturbe en rien le trafic de drogue, selon Kaouter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère.
Les trafics sont tout simplement déplacés, notamment dans le centre-ville de plus en plus. Arrêtons avec ces petites opérations coup de poing. Les habitants, de manière pérenne, ne voient rien évoluer et s'inscrire dans un schéma de perspective d'avenir positive pour eux et tous les habitants qui subissent.
En 2 jours, près de 100 personnes sont interpellées à Marseille. 71 placées en garde à vue. 4 armes, 100 de munitions, 12 véhicules, mais aussi plus de 8 kilos de cannabis et 340 grammes de cocaïne sont saisis, ainsi que 390 000 euros.
Chaque endroit est minutieusement fouillé. Dans la cité des Rosiers, au lieu du trafic de drogue marseillais, nouvelle opération PlaceNet. Partout dans les immeubles, l'équipe cynophile recherche des stupéfiants, cachés par les dealers. Dans les couloirs, près des boîtes aux lettres et même aux portes des appartements. La police cherche à occuper le terrain et veut à tout prix éviter que le point de deal s'installe à nouveau ici.
L'opération est notamment saluée par Karima Mézienne, avocate, porte-parole du collectif des familles de victimes, qui ne se fait toutefois pas d'illusions sur le long terme.
C'est une bonne chose, c'est quelque chose qui va donner une bouffée d'oxygène aux habitants des quartiers populaires sur ces quartiers nord à Marseille, effectivement, mais entre nous soit dit, effectivement, c'est une mesure ponctuelle qui va durer sur 3 semaines. On a vu hier qu'aussitôt les forces de l'ordre parties, le point de deal s'était réinstallé et que s'était mis en place un vrai jeu du chat et de la souris.
Cindy Chevaux, journaliste à BFM Marseille, a réussi à s'entretenir avec un membre de la DZ Mafia, cartel de la drogue dans la ville. Il lui parle au téléphone depuis sa cellule de prison.
C'est que du bluff tout ça, c'est pour les caméras, pour dire qu'ils font quelque chose. De toute façon, une fois qu'ils sont partis, ça vend du direct, ça vend du direct.
C'est que du bluff. Une fois qu'ils sont partis, ça a vendu direct. Voilà ce que lâche le détenu, qui ajoute que pendant que les CRS sont sur place, ça vend. Donc, dès qu'ils ne sont pas là, on ne peut pas arrêter ça. Ce n'est pas possible. Cindy Chevaux a également joint un autre trafiquant qui, lui, raconte comment ils se sont préparés aux opérations de police marseillaise.
Nous, on a déjà bougé ailleurs. Il va y avoir un peu une petite pénurie pendant 2-3 semaines. Et on va juste augmenter les prix, tout simplement, par rapport à la pénurie. Et ensuite, on régulera ça comme... C'est un commerce, ni plus ni moins. Hein. C'est uniquement du commerce. Hein. Quand il manque, on augmente les prix. Et quand ils vont repartir, on mettra les prix comme d'habitude. Donc, on n'aura aucune perte financière. C'est de la communication politique, tout simplement. Il y a les Européennes qui arrivent bientôt. Et ça fait 3 fois qu'ils viennent à Marseille. C'est sur le même cinéma.
Notre reporter sur place, Naoufel El Khawafi, a pu constater que le deal se remettait très vite en place, une fois les policiers partis.
Dès que les forces de l'ordre sont présentes, on enlève les différents points de deal, et dès que les forces de l'ordre s'en vont, eh bien ces points de deal reprennent. C'est ce qui s'est passé hier tout à l'heure avec la présence du président de la République. Dès son départ, plusieurs points de deal ont tenté de reprendre.
Sur BFM TV, Gilles Leclerc, ancien chef de l'office antidrogue, ancien préfet de police de Marseille, estime qu'il faut tenir dans la durée.
Il faut saturer le terrain pendant au moins 3 semaines, 1 mois de policiers pour repousser ce point de deal et espérer qu'il soit fermé, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne va pas se déporter ailleurs.
48 heures après le début des premières opérations PlaceNet XXL, l'audience des comparutions immédiates s'est tenue au tribunal correctionnel de Marseille. Nous sommes le 20 mars et voici le profil des premières personnes interpellées. 7 au total. Migrants en séjour irrégulier, chauffeurs de poids lourds au chômage ou encore jeunes en attente de formation. Tous étaient soupçonnés d'opérer à l'échelon le plus bas du trafic, écrit le journal Le Monde. Le procureur, Olivier Redon, a eu cette phrase. Des pions utilisés comme chair à canon, tant leur situation précaire n'est pas brillante. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme et auteur notamment de l'ouvrage « Les narcos français brisent l'omerta » aux éditions Albin Michel. Le gouvernement veut faire place nette à Marseille. On appelait ça avant les opérations coup de poing. Ça fait des années que ça dure. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est vertigineux, mais finalement, ça ne change rien. Le trafic, il reprend à chaque fois.
Bah écoutez, une opération coup de poing, ça risque de laisser un blessé sur le carreau. Ça fait des taches de sang. C'est pas très propre. On va dire. Donc, on a le gouvernement a trouvé cette nouvelle appellation, opération place nette. En gros, l'idée, c'est on fait le ménage et quand on repart, c'est propre. C'est ça l'idée de la place nette. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une officiellement, sémantiquement, on peut dire qu'il s'agit de lutter contre toutes les formes de pollution, qu'elles soient sonores, visuelles, classiques, sociales, etc., que génère le chaos engendré par la drogue. Après, moi, j'ai une première petite observation, une première petite réserve par rapport à ça, c'est que le ménage, si vous le faites pas régulièrement, ben la poussière s'accumule rapidement. Hein. Chacun le sait, et c'est un peu pareil pour le trafic de stupéfiants. Si vous arrivez, vous donnez des coups dans les portes, faites sauter les bouches d'égout, vous saisissez tout ce qu'il y a à l'instant T de disponible en argent et en produits, et puis vous repartez chez vous. Mais écoutez, quelques jours plus tard, ça va évidemment le balai insupportable pour les habitants du trafic va reprendre.
Mais du coup, il faudrait faire le ménage quoi ? Toutes les semaines, tous les mois ?
Ben, qu'est-ce que vous faites chez vous ? Vous faites le ménage tous les jours ? Tous les deux jours ?
Ben, quasiment tous les jours.
Ben, voilà, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu comme à la maison. Moi aussi, j'essaie de tenir propre mon environnement, mais dans ce cas, c'est un travail quasi quotidien. C'est ça l'histoire. Et c'est là où c'est la grande difficulté des forces de l'ordre et du gouvernement. C'est que si vous voulez, une fois que vous avez démonté tout ce qu'il y a à démonter à l'instant T, c'est une histoire ensuite d'occupation de l'espace public. C'est-à-dire que les trafiquants de stupéfiants ont pour habitude de coloniser le territoire, des territoires qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent a priori justement aux riverains, à tout le monde en réalité. Donc ils procèdent par privatisation d'un espace physique pour créer un supermarché de la drogue. Alors ils modifient les accès voitures, ils contrôlent un peu partout, ils mettent des guetteurs un peu partout pour savoir un peu qui arrive et surtout pour signaler lorsqu'approche une voiture de police. Donc ce territoire, si vous voulez, une fois que vous l'avez repris, si vous n'y installez pas de manière pérenne un certain nombre de forces, ben il va être repris par l'adversaire. Donc c'est là où un magistrat marseillais récemment avait probablement raison de parlé de combat asymétrique, et lorsqu'il disait ça, devant la commission sénatoriale en charge de l'enquête sur le narcotrafic, lorsqu'il disait ça, ce procureur de Marseille a sans doute pesé ses mots et a dit, ce qui a énervé fortement d'ailleurs la chancellerie.
Oui, Eric, ça n'a pas plu au ministre de la Justice.
Ça n'a pas plu du tout à Éric Dupond-Moretti. En gros, il a dit le combat est asymétrique et ce ne sont pas nous, ce n'est pas la justice et ce n'est pas la police qui a le dessus. Le rapport de force est en gros favorable aux trafiquants de stupéfiants. C'était ça qui était dit. Donc, si vous voulez tenir après avoir fait le ménage, ben voilà, il va falloir mettre une compagnie de CRS. Mais compagnie de CRS, vous n'en avez pas une par point de deal. Vous avez encore 100, 150 points de deal qui fonctionnent à Marseille. Il n'y a pas 100, 150 compagnies de CRS. Donc, forcément, l'État va trouver très rapidement les limites de l'exercice.
Les habitants, ceux qui vivent au milieu de ce trafic, ils se font aucune illusion.
Alors, les habitants, eux, je vous rappelle quand même que dans ces points de deal, là on redécouvre le trafic de stupéfiants tous les 15 du mois, mais en réalité, ça fait 5-6 générations de trafiquants de stupéfiants que ces habitants voient passer. Évidemment, ça génère des envies de se faire loger ailleurs, mais on n'a pas les moyens. Ça génère la recherche effrénée d'appartements dans un autre parc HLM, mais il n'y a pas de place. Donc ça crée de l'angoisse parce que vos propres enfants peuvent tomber dans le trafic, de l'angoisse parce que vous pouvez prendre une balle maintenant, on le sait, à Marseille, alors que vous êtes en train de faire vos études et travailler tranquillement vos devoirs au deuxième étage d'un immeuble. Donc si vous voulez, les habitants, eux, ils sont évidemment en souffrance. La grande majorité des habitants sont en souffrance, sont en demande. Moi, personnellement, en tant qu'écrivain et journaliste, je suis en contact avec un certain nombre d'entre eux. Et c'est vraiment des appels...
Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils voient Emmanuel Macron débarquer, je mets entre guillemets, par surprise? C'est quoi leur ressenti?
Évidemment, le fait que le président de la République en personne se déplace pour prêter attention à leur quartier, c'est plutôt un bon point. On va pas dire le contraire. Je veux dire, c'est certes une opération de communication, mais en même temps, c'est une vraie présence. Mais si vous voulez, quand ça fait une vie que vous vivez avec ces trafiquants qui font du bruit en permanence, qui vous mettent en danger, qui vous bousculent et qui sont propriétaires de la cage d'escalier dans laquelle vous habitez, que le président de la République passe ou ne passe pas, votre vie va continuer à être terrible. Et si d'aventure vous avez perdu un neveu, un proche, un fils, ça arrive aussi à cause du trafic de stupéfiants. Alors là, vous avez en plus la misère de la mère qui est souvent seule et qui doit assumer la perte, le désir de vengeance éventuellement de certains. Et donc là, j'ai vraiment parfois l'impression, quand je parle à certaines mamans, qu'elles sont en prison et qu'elles m'appellent de prison.
Marseille, c'est une ville stratégiquement très bien située pour les trafiquants.
Marseille, c'est le berceau de la criminalité organisée à la française. C'est là qu'a été inventé le trafic de drogue à l'échelle mondiale. Je le rappelle quand même, avec l'héroïne et la French Connection. L'héroïne était l'opium arrivé brut depuis le Moyen-Orient, était transformé à Marseille dans les laboratoires et expédié par paquebot, par avion, par voiture dans les paquebots vers le continent américain, qui était en gros nord-américain, donc les États-Unis, qui étaient le seul et l'unique consommateur à l'époque d'héroïne. Donc si vous voulez, il y a vraiment un passé à ce niveau-là, et on ne parlait pas à l'époque de narcoville, parce que finalement ça dérangeait personne, mais à partir du moment où vous avez dans une année plus de 40 victimes sur le trottoir, avec à chaque fois les médias qui arrivent, avec à chaque fois la même scène de panique, avec à chaque fois les mêmes cris d'opprobre, etc. Là, c'est là que naît l'idée de ce mot qui est très fort de narco-ville. Ça veut dire qu'il y a des quartiers entiers, en gros, qui sont dédiés et dont l'économie, qui n'est plus si souterraine que cela, repose intégralement sur le trafic de stupéfiants.
Merci Frédéric Ploquin.
À bientôt.
Et merci à Eva Serraiol pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au Titre à la Une pour ne rater aucun épisode.
Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à la science-fiction qui devient réelle. Un homme paralysé a pu jouer sur un ordinateur par la pensée grâce à Neuralink. C'est une puce électronique développée par une start-up d'Elon Musk. Glissée dans le cerveau, elle permet la télépathie. Une vidéo a été diffusée où on voit sur les réseaux sociaux Noland, tétraplégique depuis 8 ans, jouer aux échecs sur son ordinateur. Alors, comment fonctionne cette puce? J'ai posé la question à Salomé Ferraris, journaliste tech à BFM TV. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site, l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.